au FM 93. Les sports avec Ray Cloutier.
Le meilleur ré d'entre tous les rés.
Ah. Le dièse, c'est pas si mal.
Non,
ré dièse.
Il n'arrive pas à cheville de Ré Cloutier.
Ré dièse. Ça existe-tu, ça? Ré dièse?
Oui.
Je le sais pas. Puis l'autre, le ré quoi, là? Musicien?
Bémol.
Ré bémol, oui.
Il y a le ré basmati aussi. Alors, ré, les sports.
Ben oui. La Ligue nationale de hockey, ça commence demain, la ronde de qualification, dont la série, bien sûr, qui mettra aux prises le Canadien aux Pingouins de Pittsburgh, une série au meilleur de 5 matchs. Demain soir, 20h, match numéro 1. Ensuite, le match numéro 2, lundi, match numéro 3, mercredi. On verra où on est rendu par la suite pour cette série de la ronde de qualification. Peu de gens donnent des chances aux Canadiens de remporter la série contre les Pingouins. Le Canadien étant la 12e équipe dans l'Est, c'est un peu normal. Et lorsqu'on regarde sur papier, bien que ça va jouer sur la patinoire, mais sur papier, évidemment que les Pingouins ont un meilleur club que le Canadien présentement. Mais qui sait? Et Vivio Veldo, on verra ce qui va se passer entre le Canadien et les Pingouins de Pittsburgh. Je vous rappelle que les équipes qui vont perdre dans la ronde de qualification, il y en aura 8, deviennent éligibles au premier choix au repêchage de la Ligue nationale de hockey. Ce sera déterminé lundi le 10 août prochain qui obtiendra le premier choix au prochain encamp de la Ligue nationale de hockey. Il y aura donc 12,5% de chances pour chacune des 8 équipes qui subira la défaite dans la ronde de qualification. Il y a quelques séries très intéressantes, je trouve, pour cette ronde de qualification. Chicago-Edmonton est au haut de ma liste, surtout après le match que j'ai vu des Hawks de Chicago contre Saint-Louis cette semaine. C'est une bonne équipe de hockey, jeune, mais très bonne équipe de hockey, les Hawks, avec des bons vétérans. Puis, et là, ça fait 4 mois et demi qu'il n'y a pas eu de hockey. Donc, au niveau des blessures, presque tous les joueurs sont guéris de cette blessure-là. Souvent, à la fin de la saison, des vétérans ont peut-être plus de difficultés parce que, justement, les vieilles jambes ont plus de difficultés à suivre. C'est pas le cas. Donc, des joueurs comme Taves, comme Kane, comme Duncan Keith, je pense, peuvent avoir un bon impact pour les Hawks de Chicago. Puis de l'autre côté, ben, t'as les Oilers avec énormément de talent, à commencer par McDavid et Draisaitl. C'est une série qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Cette série-là débute demain. C'est à 15h pour le match numéro 1. La série Winnipeg-Calgary sera pas piquée des verres non plus. Deux clubs canadiens qui s'affrontent. Et ça va prendre un gagnant et un perdant. C'est plate à dire, mais ce sont deux très, très bonnes équipes de hockey. Je donnerai l'avantage aux Jets parce que devant le filet, Connor Hellebuck est un des meilleurs, sinon le meilleur dans la Ligue nationale de hockey. Je vais dire un des meilleurs, là, mais il est vraiment bon, Connor Hellebuck. Présentement, fait partie de l'élite des gardiens de but. Puis à Calgary, ben, on sait même pas qui va avoir le départ pour le match numéro 1 devant le filet. C'est la faiblesse des Flames, à mon avis. C'est pour ça que je choisirais les Jets dans cette série-là, mais ça va être aussi très, très bon, selon moi, cette série 3-5. Et Toronto-Columbus, moi, je trouve que c'est une série qui a bien du bon sens, surtout qu'hier, encore une fois, Columbus a démontré qu'ils avaient un très, très bon club de hockey, bien dirigé, quoi qu'on en dise, mais John Tortorella, qui est en nomination pour le trophée, remis au meilleur entraîneur, le trophée Jack Adams, cette année, fait du bon travail avec Columbus, qui ont perdu des bons joueurs. Là. Ils ont perdu, entre autres, Artemi Panarin. Ça n'a pas trop paru. C'est une équipe qui joue ensemble. Et je parlais de blessures, les joueurs sont guéris. Ben, Seth Jones était blessé lorsque la pandémie a sévi. Il est parfaitement guéri et Seth Jones est prêt à jouer son 30 minutes par match. Un défenseur très, très efficace. Columbus-Toronto, ça ne sera pas piqué des verres non plus. Les Leafs sont une bonne équipe. Ouais. Il y a de la pression sur les Leafs encore, étant donné que on a donné des longs contrats aux 4 joueurs vedettes, là, Matthews, Tavares, Nylander et compagnie. Il faut que ça produise maintenant. Il faut que les résultats viennent pour ces jeunes joueurs à Toronto. Donc, il y a toujours une bonne pression sur les Leafs qui n'ont pas gagné, je le répète, depuis 1967.
De tous les duels que tu m'as nommés,
oui.
La seule équipe que je ne suis pas capable de te dire,
pas capable.
C'est qui, là, genre, les deux gros attaquants, super attaquants, là. Mm. T'sais, parce qu'on s'entend, Edmonton, c'est facile, McDavid, Draisaitl, là. T'sais, tu parlais de Winnipeg, Calgary, Toronto. Bon, c'est Columbus.
Columbus.
T'sais, tu me dis, c'est bien dirigé, puis
oui.
Pour que ce club-là gagne, là.
Oui.
Il faut absolument que ça passe par l'entraîneur-chef.
Il y a une parce bonne défensive aussi, oui, oui. Oui,
c'est ça. Oui. Mais ben, c'est vrai qu'il y a Seth Jones, tu as raison.
Jones, Werenski.
Oui, c'est des bons défenseurs.
Le gros Savard joue bien aussi.
Mais parce que sinon, par ça, c'est la seule équipe qui n'a pas des relativement super vedette en attaque. Là,
ouais.
Patrick Laine à Winnipeg, c'était assez une super vedette.
Ouais.
Johnny Gaudreau, c'était assez une super
Johnny
vedette. Les quatre chumés de Toronto, Nylander, Marner, Tavares, Matthews, c'est des super vedettes aussi.
Oui.
La seule équipe là, qui n'est pas vraiment drivée par l'attaque, c'est Columbus.
Les Blue Jackets.
Pas mal ça. Hein?
Effectivement.
Bah, tu joues le commentaire sportif, pareil. Ça n'arrête jamais. Aïe, yes, sir.
Ils jouent bien hier. Pas qu'ils ont dominé les Bruins, là, mais ils ont fait mal paraître les Bruins de Boston, qui ont un bon club. Là.
Oui.
Mais Columbus, hier, était sur la tâche.
Oui.
Peut-être une première suspension dans la Ligue nationale de hockey depuis la reprise des activités. Je suis pas certain si ça mérite une suspension. Ryan Reeves, qui a donné un coup de coude à la tête de Nick Schmaltz des Coyotes d'Arizona. Pourquoi je vous dis je suis pas certain, c'est que oui, c'est un coup à la tête. C'est clairement le coude atteint le vigeaz de Nick Schmaltz. Ils sont en train de batailler pour la rondelle. Puis Schmaltz, c'est pas un grand joueur à prime abord, mais il se penche en plus. Donc, à un moment donné, Ryan Reeves, ses coudes, il est là. Ils sont attaché après lui, il peut pas s'en départir de ses coudes. Alors, à un moment donné, il avance vers la rondelle, puis il a attrapé le museau de Nick Schmaltz. Pas sûr de... Peut-être on voudra lancer un message, puis dire, regarde les boys. Et ça a brassé un petit peu dans ce match-là. J'ai aimé ça parce que l'intensité est au rendez-vous. Puis avec tout ce qu'on dit, t'sais, les joueurs sont loin de leur famille. Puis c'est difficile à ce niveau-là. C'est des athlètes professionnels, c'est des joueurs de hockey professionnels qui, là, à compter de demain, bataillent concrètement pour gagner le Grand Saladier, la Coupe Stanley. Ce à quoi on parlait de rêve tantôt, ce à quoi ils rêvent depuis le début de leur carrière de joueur. C'est clair que ça prend le dessus sur le fait que, bon, c'est long dans la chambre d'hôtel, patati patata. Quand ils mettent leur patin, quand ils embarquent dans le 200 par 85, c'est des gars qui sont dédiés pas mal. Puis ça va nous donner, je suis convaincu, des bons matchs de hockey au cours des prochaines semaines. À mon avis, pour un joueur de hockey, il y a comme trois étapes pour la forme. Il y a la forme à proprement dit, la forme physique. Ça, ils gardent ça pas mal tout le temps, les joueurs. La forme d'un joueur de hockey, ben là, les dernières semaines leur ont permis de reprendre un peu la forme de joueur de hockey. Ce qui leur manque pour quelques-uns, ou peut-être même la majorité, c'est la forme de match.
Ça,
tu peux pas acquérir la forme de match sans jouer des
le
matchs.
Synchronisme,
c'est bête de même. Là. Puis ils n'ont pas joué de match, ils en ont joué un match hors concours.
Ouais,
c'est pratiquer, faire des scrimmages, pratiquer en petits groupes, c'est tel que tel. Là, tu prends ton cardio, tu prends ta forme, mais la forme d'une partie de hockey où tu as des présences de 40-45 secondes à toutes les 5-6 minutes, ben c'est juste en jouant des matchs. Donc, à mesure qu'on va avancer, je suis convaincu que le jeu, le synchronisme, la qualité va s'améliorer.
Ça serait quoi la traduction de « hand-eye » là?
Hand-eye?
Main-œil.
Main-œil.
Tu sais, des joueurs ont dit, en anglais, ils disent qu'ils ont une bonne qualité, on va dire, de « hand-eye », la synchronisation entre la main, entre le bâton et les yeux. Y a-t-il une traduction pour ça?
C'est bon, ça, on comprend.
Mains-yeux.
Oui.
Ça aussi,
la
c'est
cohésion entre les joueurs.
T'sais, t'as beau pousser de la fonte puis courir sur un tapis, mais il faut que t'aies un bâton de hockey dans les mains puis une rondelle. Là, t'sais.
Oui. La forme de match, elle va venir.
Ouais.
Moi, je pense que on va avoir du bon hockey pour les deux prochains mois. J'ai bien hâte que ça commence. Demain, il y a 5 parties au calendrier à compter de midi. Et la dernière partie demain est à 22h30. Donc là, il y a la ronde de qualification, Canadiens-Pingouins et 7 autres séries. Et il y a en parallèle à ça un tournoi à la ronde pour les 4 meilleures équipes de chacune des conférences. Mais ces 4 équipes-là sont déjà assurées de participer aux séries éliminatoires. On va juste déterminer le classement 1, 2, 3, 4 avec le tournoi à la ronde au cours des prochaines semaines. À part de ça, ben le basketball est recommencé depuis hier dans la ville-bulle d'Orlando. Il y avait 2 parties. Les Lakers ont battu les Clippers. Anthony Davis, surnommé le sourcil, a marqué 34 points. Kawhi Leonard en a marqué 28.
Ça donne le goût de faire du Google.
Dans la défaite. Il y a juste un sourcil. Pas tu as déjà vu la face, Anthony Davis?
Ah oui, ok, je le connais.
Juste un gros sourcil qui part de la gauche vers la droite sur votre écran.
Une gauche nez à poil.
Oui, un gros sourcil.
C'est bon. Ça.
Et Utah a battu la Nouvelle-Orléans 106-104. Dans ce match-là, la recrue Zion Williamson a joué, mais une quinzaine de minutes pour 13 points. C'est un retour progressif pour Williamson. Donc, dans la NBA, il y a 22 clubs qui sont là à Orlando, 13 dans l'Ouest, 9 dans l'Est. Ils vont jouer chacun 8 matchs. Chacune des équipes va jouer 8 parties. séries. De cette façon, on complète la saison régulière et ensuite, on entrera dans les séries d'après-saison. Pour les Raptors de Toronto, c'est demain soir que ça débute contre les Lakers de Los Angeles à 20h30. Bien sûr, Kawhi Leonard n'est plus avec les Raptors, mais ça demeure une excellente équipe. Il y a des experts qui pensent que les Raptors peuvent faire un grand bout de chemin et même se rendre jusqu'à la finale encore cette année avec Pascal Siakam, Serge Ibaka, Laurie est encore là. Ils ont une belle profondeur avec Van Vliet. Beaucoup de profondeur pour les Raptors, même s'ils ont plus le joueur clé, celui qui était la vedette de l'équipe, Kawhi Leonard. Maintenant, dans la NFL, les Bills de Buffalo, hier, ont retourné leurs joueurs recrues à la maison parce que 5 des joueurs recrues ont testé positif à la COVID-19. On savait dans la NFL que ça pouvait arriver et on essaie de prendre le plus de précautions possible pour restreindre la contagion, bien sûr. Le camp d'entraînement est commencé, mais on n'est comme pas pressé de débuter les entraînements sur le terrain. C'est vraiment les deux premières semaines des camps d'entraînement vont ensuite guider la NFL dans ce qu'on va faire ensuite pour la saison 2020. Est-ce qu'on retarde le début de la saison? On verra où on en est rendu dans quelques semaines au niveau du taux de contagion à travers les joueurs de la Ligue nationale de football. Maintenant, un peu de baseball sur la scène locale. Très bonne nouvelle, ça, on a appris ça hier soir. Patrick Scalabrini qui reprend du service pour le reste de l'été. Évidemment, Pat Scalabrini, l'entraîneur, le gérant, pardon, des Capitales de Québec, mais vous savez que les Capitales, cet été, malheureusement, il n'y a pas de saison. Donc, Patrick Scalabrini va prendre la relève de Frédéric Lajoie à la barre des Alouettes de Charlebourg. Un début de saison difficile, aucune victoire et 9 défaites pour les Alouettes. Fred Lajoie en est à sa première saison comme gérant avec les Alouettes. Visiblement, c'est difficile et il a remis sa démission. Donc, les Alouettes ont besoin de renforts rapidement, d'un gars qui connaît aussi les joueurs. C'est pas évident de trouver ce genre d'individu en milieu d'une saison. Et Patrick Scalabrini, qui travaille avec les jeunes dans les divers programmes de sport-études, connaît bien la majorité des joueurs des Alouettes et prendra le relais. Dès ce soir, les Alouettes sont à Trois-Rivières et Patrick Scalabrini sera le gérant de l'équipe pour le reste de la saison. Dans le baseball majeur, maintenant, on a quelques problèmes. Les Marlins de Miami n'ont pas joué de la semaine. Ouais. Et les Phillies de Philadelphie ne joueront pas non plus en fin de semaine parce que 2 cas de COVID-19 ont été diagnostiqués dans l'entourage de l'équipe. Il n'y a pas de joueurs qui sont atteints de la COVID-19 chez les Phillies, contrairement aux Marlins où il y a 17 joueurs maintenant atteints de façon positive. Donc, chez les Phillies, c'est un entraîneur et un membre du personnel, mais on a fermé les bureaux, on a fermé les lieux des Phillies au Citizens Bank Park de Philadelphie. Il n'y aura rien en fin de semaine pour Philadelphie sur le terrain. Ce sont les Jays qui devaient jouer là, donc pas de match pour Toronto au cours du week-end. Les Jays vont rester à Washington à se tourner les pouces puis à attendre la suite des choses. C'est bien dommage. C'est comme c'est un début de saison difficile dans le baseball majeur, mais rapidement, il va falloir prendre des décisions, peut-être des décisions drastiques au début de la semaine prochaine parce que les Marlins ont joué 3 matchs seulement. On est rendu à 5-6 pour la majorité des équipes, 7-8-9 avec la fin de semaine. Philadelphie n'a pas joué de la semaine, même principe que les Marlins de Miami. Oui, on peut jouer des programmes doubles à un moment donné au baseball, mais il va falloir que les Marlins reprennent l'action et les Phillies également très, très bientôt. Sinon, ben c'est le genre de, on va dire, ben vous autres, cette année, il n'y en aura pas, comme on a fait dans la MLS où on a écarté certaines équipes du tournoi de relance, parce que ça va sensiblement bien pour le reste des équipes dans le baseball majeur. Et je crois pas que pour 2 équipes, s'il y en a 3, un nombre pair en plus, pour 2 équipes, on décide d'arrêter la saison du baseball. Au contraire, on va dire, ben big deal, les boys, vous avez été malchanceux. Et on se reprend l'année prochaine. Peut-être c'est ça, vers ça qu'on va se tourner. C'est plate, ce sont des décisions difficiles à prendre. Mais en même temps, on le savait que ça pouvait arriver, ce genre de situation-là, dans le baseball versus la COVID.
C'est ça. Ça revient à ce que tu nous as dit quand même à quelques reprises, Ray. C'est
les villes bulles.
Les villes bulles, oui. Quand il y en a un qui sort pour aller aux Seuses dans la NBA, c'est ça? C'était dans la NBA qu'il y en a un qui est allé.
Mais non, c'était une rencontre. Il allait voir.
Il y avait un meeting. Il y avait un meeting.
Ils avaient pas compris. Planificateur financier, ben c'est
ouais,
ça.
Pas compris.
C'est ça. Mais tu sais, lui, on le sait qu'il est sorti. Bon, il dit, ben, excuse-moi, mon ami, mais punition à toi. Oui, c'est correct.
14 N.
Mais voilà. le résultat de ça au baseball, c'est que quand il y en a un qui le pogne, tout le monde le pogne. Puis il va en avoir quelques-uns qui vont le pogner parce qu'eux autres, ils peuvent avoir autant de meetings qu'ils veulent.
Ça se propage vite, hein? C'est ça qu'on voit, là.
Ouais. Les meetings, ça, ou la COVID,
OK? Les meetings aussi.
La COVID-19.
Mais ils sont ensemble tous les jours. C'est vrai que le baseball, c'est peut-être le sport où il y a encore plus de chances parce qu'ils sont ensemble tous les jours. Puis à journée longue, en plus. Parce qu'ils arrivent plus tôt, pratiquent au bâton. Puis
passent beaucoup de temps ensemble.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, plus que dans les autres sports, je pense que oui.
Et bien, on a décidé que les programmes doubles dans le baseball majeur, parce qu'il y en aura, que les Marlins jouent ou pas, que les Phillies jouent ou pas, il y aura des programmes doubles à température ou quelconque raison d'ici la fin de la saison. On a décidé de raccourcir les matchs à 7 manches. On est habitué, on voit ça ici dans la Ligue, maintenant la Ligue Frontier, avec les Capitals des matchs doubles, des programmes doubles de 7 manches. Puis j'ai 2-3 choses en terminant. D'abord, en Formule 1, bien, on a un cas de COVID-19 aussi. Le coéquipier de Lance Stroll, Sergio Pérez, est atteint de la COVID-19. Donc, il devra faire l'impasse sur le Grand Prix du week-end. On est de retour à Silverstone pour les 2 prochaines semaines en Formule 1 après une semaine de congé. Pérez ne sera pas dans sa voiture et ce matin, on apprend que c'est Nico Hülkenberg qui va prendre sa place. Lui, il n'avait pas de volant en Formule 1 cette année. L'an passé, s'est fait sacrer dehors par l'écurie Renault. Un Allemand quand même avec de l'expérience en Formule 1. Donc, il arrive là puis il ne sera pas totalement dépaysé. Lance Stroll, lui, va piloter sa voiture Racing Point. Les premiers essais libres sont en cours. Ce sera la 4e course de la saison 2020 en Formule 1. Et puis, au golf, c'est Brooks Koepka qui a pris la tête de la classique FedEx St. Jude à Memphis, au Tennessee, sur le circuit de la PGA. Puis, je veux terminer avec la pub de Nike. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la dernière plus récente publicité de Nike. You can't stop sport. C'est du génie des gens de Nike. Qui ont souvent sorti de très bonnes pubs. Moi, j'ai une relation un peu amour-haine avec Nike, je vais dire ça comme ça, parce que ils s'impliquent, puis ils ont des opinions, puis ils veulent un peu choquer également. Je comprends où ils s'en vont, Nike, parce qu'ils veulent vendre du linge, des chaussures, puis mais en même temps, ils ont des dirigeants qui prennent position, entre autres avec Colin Kaepernick. Ils ont pris position pour Colin Kaepernick. Ça leur sert bien, je crois. Tu sais, ils n'hésitent pas à faire ça.
Ouais,
donc, ça peut choquer, mais c'est correct. Je comprends leur réalité. Mais il y a une chose. Quand ils s'y mettent et quand ils ont fait beaucoup, beaucoup de productions télévisuelles ou de publicité dans le passé, et rarement ils manquent leur coup. Puis encore là, ça dure 1:30, je crois. Je l'ai mis sur ma page Facebook, si le cœur vous en dit, d'aller voir ça. La pub de Nike, c'est extraordinaire. Puis c'est en lien, tout est là. C'est que le sport, l'importance, puis le sport, on met un genou à terre, mais on se relève tout le temps. C'est ça, le sport. Un athlète, c'est ça. Ça marche pas tout le temps bien, mais ça se relève. Ça se relève, ça continue de combattre. C'est le message qu'on envoie à tout le monde, dans le fond, avec la pandémie. Là, on est atteint, notre gang ensemble, là, la société, on en mange une bonne. On a un genou à terre, mais il faut se relever tout le monde ensemble. Je trouve que c'est une publicité géniale de Nike.
C'est beau,
avec les images des athlètes aussi.
Et surtout, de ne pas scorer dans notre goal.
Il ne faut pas scorer, exactement. À travers ça, il y a ce message-là aussi.
Ouais. Ouais. Je me souviens, Ray, je te dirais, là, on est en 2005, à peu près 6, là, dans ces eaux-là. Là, moi, là, j'étais dans j'ai jamais autant trippé sur le soccer qu'à cette époque-là. Je jouais, j'en regardais, bon. Puis, je me souviens de Nike, justement, qui faisait déjà des pubs à l'époque.
Oui.
2005, là, c'est probablement la première année de YouTube. Un an ou deux avant Facebook.
Ça se peut.
Fait que, tu sais, on était à cette époque-là. Puis, déjà, Nike faisait des pubs à grand déploiement, là, avec les grandes vedettes du temps, Ronaldinho et autres, là, tu sais, les super vedettes, là. Puis il faisait des gros tournages où ça jouait au ballon, puis ça se bottait des ballons dans les aéroports, puis ces trucs-là. T'sais. C'était des grosses, grosses, grosses productions. Mm-hmm. Puis déjà, c'était des pubs de 3-4 minutes, t'sais, parce que c'était adapté au web.
Ouais.
Il faut le faire en 2005 là, pour mettre autant de cash.
Oh, oui,
évidemment, il en faisait une version courte pour la TV, mais il faut quand même le faire, là, faire une pub de 3 minutes pour le web en 2005 à aussi grand déploiement. C'est vrai que le côté marketing, publicité, là,
ça a
Nike,
été les premiers dans la merch, là, dans les équipementiers, à signer des athlètes parmi les premiers à signer des athlètes comme porte-parole. Puis ils en ont pas des milliers d'athlètes. Ils ciblent leurs athlètes, puis ils les payent évidemment très bien. Puis ça devient Tiger Woods, puis ça devient Rory McIlroy, puis ça devient Michael Jordan.
Michael Jordan, c'est l'exemple que j'avais donné.
devient leur porte-parole. Donc, ils les choisissent. Roger Federer a été avec Nike pendant très, très longtemps, sauf erreur. C'était-tu Nike? Oui, oui, c'était Nike.
Je pense que oui.
Roger Federer a quitté Nike. C'est très rare que les athlètes font ça. Il est maintenant avec Uniqlo. Mais ils ont souvent le pif de choisir les bons athlètes.
Puis, peut-être je me trompe, mais aussi, tu sais, à l'époque de Jordan, c'était-tu un peu moins fréquent qu'on voyait ça, justement, des athlètes porte-parole ou déjà
premiers,
à l'époque?
Dans les premiers, vois, Michael ça. Jordan.
Fait que, tu sais, maintenant, on le sait, les Air Jordan, ouais. Les revenus, la grosse affaire. Mais, tu sais, à l'époque, il y avait quelque chose d'innovant, mais d'un peu weird, de dire, on va mettre le paquet sur tel athlète. Ouais.
Mais vous l'avez vu dans The Last Dance. Là, Michael Jordan, au début, voulait rien savoir de ça. Là,
non.
Parce que la publicité, puis... mais rapidement, son agent lui a fait comprendre. Tu y vas. Il y avait un rendez-vous un matin. Là, dans Last Dance, on le voit bien. Il y avait un rendez-vous un matin. Puis Jordan, il était évaché sur son divan. Lui, achale-moi pas avec tes affaires de Nike. Ça me tente pas d'aller là. Il a donné le coup de pied dans le cul, puis il est allé. Ouais. Puis, d'après moi, Jordan, il a jamais regretté d'être allé là.
Il a dit merci, ça a l'air.
C'était quoi, donc, les... T'sais, ils disent, là, j'ai pas les chiffres, c'est dommage, mais t'sais, ils disent dans le documentaire, ils pensaient vendre, mettons, 1 million de paires de chou-claques, puis ils n'ont vendu 25 millions ou 50 millions, là, t'sais. Eux autres, ils avaient évalué pour être rentable, ça en prenait pas mal, puis c'était un pari risqué.
Oui.
Ils n'ont fait 30 fois plus.
Puis mettez-vous dans la tête du consommateur que vous êtes, là, ça vous influence. Là. Que ben si, oui. Si Jordan les porte, oui, le prix vient avec, mais ça vous influence. Là. Puis de porter ce que Jordan a dans les pieds, là, c'est, y a comme une fierté, un sentiment de fierté. Hein? Même chose pour les chandails. Puis ça fonctionne, leur affaire.
Moi, là, je suis assez content de porter un T-shirt Costco. Là.
Ça fonctionne, leur affaire.
Oui, mais ça coûte cher. Il faut vraiment que tu aimes l'athlète pour acheter ça, je trouve.
Les jeunes athlètes, Pascal. Ouais. Moi, là... J'en ai rêvé de mon T-shirt, le chandail de match, le maillot officiel de Zidane, le joueur de soccer français.
Le sport, c'est émotif. Le sport, c'est très, très émotif. C'est pas très cartésien, le sport.
C'est correct, c'est une passion.
Oui, oui, exactement.
C'est ça. Moi, de 12 à 16 ans, mettons, là, les 4 ans que ça a pris où j'achalais mes parents, parce qu'eux autres, ils trouvaient qu'un T-shirt à 120$, il faut que tu fasses venir sur Internet à une époque où commander sur Internet, t'as peur de te faire frauder. Tout. C'était compliqué, là.
Mais ça, c'est l'adolescence. Là. Tu veux te prouver,
oui, c'est
tu veux
ça.
Avoir ta place. Ouais.
Mais à toutes les nuits, je rêvais que hey, le jour. Puis je passais du temps à regarder, juste à regarder eBay. Mm. Puis il faut que tu bides, là. C'était encore de même, mais à l'époque, on découvrait ça. Il fallait que tu bides, là. Donc tu mises sur une enchère eBay, là. Je regardais les chandails. Il y a eu deux générations de T-shirts de l'équipe de France qui ont passé entre le moment où je le voulais et le moment où je l'ai eu, là. T'sais. Puis c'était, puis de mémoire,
Didier
je pense.
Deschamps?
Non, Zidane.
Oui, Didier Deschamps, ça a été le coach.
Oui, il a joué aussi. Ça a été aussi un joueur. Puis tu vois, je pense que c'est Adidas de mémoire qui faisait les chandails à ce moment-là. Mais tu sais, quand t'es un jeune athlète, c'est la même affaire pour le bâton d'un tel joueur. Oui. C'est la même affaire pour les souliers au basket, les gants au football. Tu veux tel gant. Puis,
oui.
Tu sais, c'est pareil.
C'est quoi votre pire folie d'achat pour le sport?
Pire folie d'achat.
L'affaire qui m'a coûté le plus cher, c'est des souliers à crampons, mais je les porte encore, puis ça fait 12 ans.
Ouais, non, mais plus.
Fait que ça, j'ai jamais vu ça.
C'est, ça, c'est normal.
Le fameux match des Blue Jays en 15e manche en série qui m'a coûté 400$ pour le billet à 12 rangées du marbre, en arrière du marbre, là. ça m'a coûté
c'est
cher.
Par exemple, ça.
Ah, oui.
Non, 400 à Cannes, mais c'est en payant US qu'on s'est rendu compte qu'on était rendu à 400 à Cannes.
Tu fais, 250, c'est pas si pire. Ouais. Oh, palais!
Et quand t'as le bill qui arrive, tu fais, ah oui, c'est vrai, il y a ce bout-là que j'ai oublié. Ouais.
Et vous, Mr. Ray?
Il y en a plusieurs. Il y a des billets de sport. Là. Un Yankees-Red Sox, que je me souviens, à Fenway Park. J'avais payé cher, puis j'étais assis dans le champ.
T'as pas mangé de hot dog, ce fois-là?
Oui, je l'ai mangé pareil. Tant qu'à y être. Il n'y a pas de problème. Là. On fera le détail après. Là.
Un set de bâton de golf?
Un set de bâton de golf, oui, mais
ça dure. Ça, dure. Ouais, ça vaut combien, ça, un set complet?
Il y en a tous les prix, là. Okay. Tous les prix, ça part de quelques centaines à quelques milliers.
Ah ouais. Le plus cheap, comme ça. Okay. Si tu pars à zéro, le plus cheap que tu as vu pour un set?
Oh, ça peut être une centaine de piastres, puis tu es équipé. Là.
Okay. Oui, okay. Oui, oui. Mais, oui, oui. Mettons dans la catégorie folie. Là. Ouais. Parce que moi, les affaires, vous me racontez, je me dis, OK, mais tu sais, les gars, c'est genre...
Ça, c'est des folies.
Souvenir d'une vie. Fait que, OK, il y a un peu quelque chose de peut-être de spontané dedans, mais j'ai déjà acheté un ballon de soccer à 150 piastres.
Ouais.
Là, tu te dis, ouais, un ballon, là, il y en a qui font un job en masse.
Pourquoi?
Là.
Parce que c'était un athlète qui l'avait publicisé?
Ou? Non, c'était le ballon. Tu sais, chaque grand tournoi a un ballon officiel. Mm-hmm. Puis c'était comme le ballon officiel, mais tu sais, t'as plein de répliques, fait que tu peux en avoir à 20$. Mais là, c'était comme celui-là qui. Le ballon vraiment.
Ce n'était un que Zidane avait même. Il l'avait regardé, ce gars-là.
Non, même pas. Même pas. Mais tu sais, c'est des ballons à 150-200$, puis t'as quasiment peur de botter dedans parce que t'as peur de le briser. Là. Ah, ouais. Ça, c'est un peu une folie.
Quelqu'un nous écrit, j'ai des bottes de ski et les skis d'un athlète olympique.
Ouais.
Ça devait...
Mm-hmm. Oh, 1500$ le kit. Ça va pas payer. Faut
1500$, c'est pas si cher. Ben, à moins que là, tu peux pas les utiliser puis c'est vraiment une décoration ou un objet de collection.
Faut être bon dans la pointe de tarte. 1500$ de kit de ski. Là.
À la seconde où tu achètes des choses autographiées puis qui sont authentiques, en général, tu vas déplier pas mal. Là.
Ouais, c'est sûr.
C'est sûr que la dernière fois, moi, j'ai eu un autographe, ça m'a rien coûté. C'est Rick qui me l'a amené d'ailleurs.
Ah, c'était qui?
C'était Gilles Gilbert.
Ouais.
Ah oui.
Gilles Gilbert.
C'est un ancien gardien des Blues.
Qu'on salue et peut-être à l'écoute encore.
Il l'était le matin en question, fait que pourquoi pas. Et je disais, ah, il est décédé, telle date, nanana. Puis,
oups.
Non, on a appris pas longtemps après qu'il n'était pas décédé.
Il était très vivant.
Ouais.
T'as tué quelqu'un en onde, toi?
Oui, mais cette semaine-là, on avait tué plusieurs personnes en onde. Ça avait été
une mauvaise passe.
Ah, c'était une grosse semaine.
Mais je l'ai appelé là, le matin même. J'ai dit, écoutez, là, je viens de dire ça. Avant que vous en entendiez parler, j'aimerais ça que vous me pardonniez, s'il vous plaît.
Ça, c'était avant l'Internet, j'imagine?
Non, c'était il y a 2 ans.
Non. Oh, palais.
Hey,
7h06, va falloir qu'on fasse une pause. Au retour, les nouvelles avec Queen P.
D'autres segments scientifiques et intelligents s'en viennent.